Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Et on vous propose un condensé d'un match historique qui nous a tenus en haleine pendant deux jours cette semaine dans Team Dugas. France RFA 82, la demi-finale dramatique de Séville en Coupe du Monde. Avec autour de la table, pour en parler, du beau monde, Christophe Dugarry, Daniel Riolo, coach Courbis, Julien Cazard et Polo, notre spécialiste du foot allemand.
Bonne balle de Platini pour Batistan.
À côté.
Aïe, c'est pas vrai.
Et encore une fois, Schumacher.
Il n'a pas fait le voyage.
Regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Oui, il est fou, oui, ce Schumacher. Que voulez-vous, monsieur Corvert? Honte à vous.
Oui, Marius Rézor.
Oui, Marius.
Reprise de volée.
En retrait pour Giresse.
Oui, bien joué. Giresse qui marque le troisième but sur ce centre en retrait.
Et que nous sommes au coup de pied au but. Voilà.
C'est fait.
L'épreuve que tout le monde redoutait.
Oui. Bravo Ettori.
Ce n'est pas fini.
Aïe.
Quel chat noir c'est.
Roubaix. Ettori. But. Et voilà. C'est fait.
Terrible pour les 13 Français qui ont participé à ce match.
C'est la très très dure sanction de ce match de Séville. Que nous ne sommes pas prêts d'oublier.
Eh ben oui, parce qu'on en parle toujours aujourd'hui, les commentaires de l'époque de Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Voilà, les coups de pied de but n'ont pas été favorables à la France. Polo Breitner nous rejoint, notre spécialiste du foot allemand. Salut Polo.
Bonsoir Jean-Louis, bonsoir tout le monde.
Salut Polo, bienvenue.
Bon, alors, France-Allemagne 82. Nous allons donc tout de suite faire un saut dans le temps. Le 8 juillet 1982, deuxième demi-finale de la Coupe du Monde en Espagne. Donc, tout le monde a évidemment cette rencontre en tête. Moi, j'ai une première question pour ceux qui étaient nés à l'époque et qui ont suivi ça avec attention. Donc Daniel.
Nous tous, sauf toi en fait.
Je sais pas. Oui,
t'étais pas né Jean-Louis, sans déconner.
Non, j'étais pas né, non.
Merde. Ouais,
oh, désolé.
C'est fou.
Non mais alors, la question est, est-ce qu'à l'époque...
T'as tout raté.
Donc toi, tu détestes pas les Allemands. Tu fais partie de ta génération.
J'adore les Allemands, moi.
Ah ouais, d'accord.
Ma femme est franco-allemande.
Mon Dieu. Coluche avait raison.
Oui, sur quoi?
Il disait, regarde, même les Allemands, ils veulent plus faire la guerre. T'as qu'à le voir, quelle merde on est.
Bon, moi j'ai une question. Est-ce que... parce que j'ai regardé un peu le parcours, évidemment. Et on se rend compte quand même que la France a un parcours de rêve jusqu'à cette demi-finale. C'est-à-dire qu'à l'époque, donc, il y a deux phases de poule. La première...
Ça ressemble à nos parcours depuis une dizaine d'années.
Exactement. Et je voulais savoir si ça, on en parlait à l'époque. Parce que donc, il y a première phase de poule où on termine deuxième derrière l'Angleterre. La seule victoire, c'est contre le Koweït. Deuxième phase de poule, on tombe dans un groupe avec l'Autriche et l'Irlande du Nord, alors que l'Italie tombe avec le Brésil et l'Argentine. Et l'Allemagne avec l'Angleterre et l'Espagne. Donc c'est quand même autre chose.
Rappelons que Deschamps n'est pas le sélectionneur.
La question c'est, est-ce que j'ai une réflexion de jeune con, ou est-ce que c'est
non,
vrai?
C'est vrai.
Voilà. Alors déjà
mais non, mais dans nos discussions de... Pardon, vas-y.
Vas-y Daniel.
Non, j'ai déjà dire qu'on parlait ou on parlait pas. On est dans une époque où on ne parle pas de foot.
Oui, c'est vrai. Marc, oui.
Personne ne parle de foot. Tu vois le match à la télé, il est commenté, ça se termine. Au revoir tout le monde. Il y a pas de commentaire, il y a pas d'analyse,
oui,
il y a pas
vrai,
de voilà. Donc le parcours, le groupe de base, il est difficile parce que t'as l'Angleterre et la Tchécoslovaquie. La Tchécoslovaquie à l'époque, la France gagne pas à tous les coups contre ce genre de pays-là.
On fait match nul.
Le Koweït, effectivement, c'est l'équipe facile du groupe. Et d'ailleurs, la France, au départ, on se dit pas forcément qu'elle sort du groupe, elle se prend une tôle contre l'Angleterre. Hidalgo change tout pour le match suivant, et contre la Tchécoslovaquie, ça fait un partout avec Amoros qui sauve sur sa ligne un deuxième but tchèque qui nous aurait éliminé dès le premier tour. La deuxième petite poule de trois, effectivement, là, c'est un bon tirage parce que de l'autre côté, t'as eu des équipes qui n'ont pas, tu sais, comme souvent, répondu aux attentes et tout. Et oui, le groupe de l'Italie, Brésil, Argentine, c'est plus compliqué.
Parce qu'on aurait dû avoir l'Italie, normalement.
Avec Allemagne, Angleterre, je crois que c'est Allemagne, Angleterre, Espagne. Allemagne, Angleterre, c'est plus compliqué. T'as le groupe avec URSS de mémoire, Pologne, Belgique, je crois, c'est pareil. Et nous, on est avec Irlande du Nord et avec Autriche. effectivement, là, t'es plutôt, là, à ce moment-là, t'es plutôt verni en ayant fait deuxième de ta poule.
Donc, ouais, t'arrives dans ce match-là sans énorme référence, hein, vu les équipes que t'as battues. Mais bon, c'est quand même une demi-finale de Coupe du Monde. Je vous redonne la compo, même si je sais que vous l'avez tous en tête.
Oh, enfin, ça, c'est par cœur, ça, ouais.
Jean-Luc
ouais,
Théori dans les buts.
Jean-Louis, est-ce que
oui, coach, bien sûr.
On est obligé d'insister sur ce qui se passe d'entrée. Puisque je m'en rappelle dans les commentaires, et ça m'a permis, moi aussi, dans l'analyse, de voir que finalement, une préparation d'un tournoi aussi important qu'un championnat d'Europe et qu'une Coupe du Monde, bah écoute, oui, c'est sûr que c'est important, traditionnel, match amicaux, d'accord. Mais quand on voit que l'équipe de France se prépare, quand on se prend une droite dans la gueule contre les Anglais, c'était à Bilbao. Dans ce match-là, on n'est même pas mauvais, on est ridicule. Et qu'on change 4 ou 5 postes qui sont les postes les plus importants de notre équipe, avec des inventions, Jean Vion qui joue stopper, n'en a jamais joué de sa vie. Là, ça me fait, moi, regarder en tant que passionné, en disant, putain, on va quand même pas faire une bonne Coupe du Monde avec ce qui vient de se passer. Eh bien oui, tu vas presque au bout. C'est quelque chose. Et ce fameux carré magique, avec toute l'affection et la sympathie que j'ai pour Hidalgo, ben il n'y est pas au départ le carré magique, il se construit tout seul.
Effectivement, oui, c'est vrai qu'il y a tous ces changements.
Hidalgo qui le met, ok, c'est sûr.
C'est vrai qu'il y a tous ces changements avec le match de l'Angleterre, le premier match. Alors, contre l'Allemagne...
Excuse-moi, mais le carré magique, avant que tu le vois chez Deschamps, il peut se construire tout seul, il peut y aller longtemps.
Hein. Ah ben, il y a un carré magique
là, tout seul, déjà, ils ne sont pas là déjà, ils ne sont même pas dans le groupe les mecs.
Non, Deschamps, le carré magique, c'est juste déplacé en défense.
Ben, voilà.
Il y a 4 défenseurs
centraux. Ils sont magiques, ils sont carrés.
Alors, j'avais même opposé cette formule. Deschamps, lui, il construit toujours un carré solide. C'est les deux défenseurs centraux et les deux qui sont devant.
Ah oui, avec Mbia et Diarra, là, à l'époque
à l'OM, et même en équipe de France, tout le temps, lui, ce qui lui importe, c'est un carré solide.
Ouais.
C'est de plus en plus un octogone, hein.
Oui, moi j'allais dire un hexagone avec les latéraux, mais t'as raison.
C'est un octogone avec deux mecs qui se démerdent devant.
Alors, l'équipe de France, la compo. Donc, Jean-Luc Ettori dans les buts. Une défense amoureuse, Bossis, Janvion, Trésor. Et c'est vrai, par rapport au match de l'Angleterre, Christian Lopez était.
Trésor dans
titulaire.
L'axe, hein, parce que comme tu l'as annoncé, on a l'impression qu'il était latéral.
Trésor, ouais. Janvion dans l'axe, Bossis, amoureux sur les côtés, c'est ça?
Ouais.
Donc, le carré magique, première génération, avant que Luis Fernandez n'arrive dedans. C'est donc Gengini, Platini, Gires, Tigana. Contre l'Angleterre, toujours pour faire plaisir à coach, il y avait René Girard titulaire, Jean-François Larios également. Ouais. En attaque donc contre l'Allemagne,
Gérard Soler.
Voilà, parce que c'était Rocheteau et Six contre l'Allemagne, et Soler était titulaire avec Rocheteau contre l'Angleterre. Donc effectivement, il y a des changements. Bon, en même temps, ça fait partie aussi de l'histoire de beaucoup d'équipes de France. Et l'équipe qui se construit au fur et à mesure de la compétition, voilà.
Sauf que là, on n'avait pas. Le truc, c'est que là, il y avait zéro expérience. Parce que la Coupe du Monde 78, tu étais allé un peu en mode découverte, et puis tu tombes dans un groupe tellement compliqué avec l'Argentine et l'Italie, tu sais que tu vas jamais sortir. La Coupe du Monde 82, tu arrives sans référence, t'as pas fait l'Euro 80. Toi, c'est pas comme bien aujourd'hui, sûr, ouais, où toi tu dis oui, mais on a l'habitude de transformer en cours de route. On avait l'habitude de rien du tout. On était là, on se disait mais où ils vont, comme a dit Roland après le premier match. Je dis bon, c'est fini, on va rentrer à la maison, quoi.
Oui, bien sûr. Alors, on y va donc pour le match. Bon, alors évidemment, vous avez en tête tout ce qui s'est passé, mais quand même, on va se remémorer tout ça. L'équipe de France qui débute pas bien la rencontre. Lidbarski qui va ouvrir la marque. Ah, j'ai pas donné la compo allemande. Polo, peut-être que tu peux.
Alors deux têtes, Schumacher dans les
buts. Je l'ai sous les yeux, mais.
Côté droit, Manfred Kals, évidemment, les frères Förster, Briegel, décathlonien. Milieu de terrain, Dremler, et il m'en manque un comme d'habitude, Stilicu, excusez-moi. Ouais. Et puis le milieu de terrain offensif,
c'est Breitner. Stilicu est en charnière centrale.
Il est en charnière centrale, excuse-moi.
Stilicu, oui. Stilicu est en charnière centrale.
Et comment ça s'appelle ? Il y a Breitner qui est meneur de jeu, ce qui est quand même très paradoxal, alors que c'est un arrière de formation. Et les trois de devant, Magath, Lidbarski et Klaus Fischer, puisque Rummenigge est blessé. Ah,
Félix Magath, ça c'était un joueur.
Exactement, ouais.
Et d'ailleurs, on voit le côté défensif des Allemands. On voit le côté très très défensif des Allemands.
Ah oui, ça c'est très défensif. Rummenigge remplaçant déjà, c'est balèze.
À l'image de Breitner. Non, Rummenigge, il est blessé. Et d'ailleurs, quand il rentre, il est quand même décisif tout en étant blessé.
Ah oui.
Exactement.
Il est décisif et il remet son short.
Ouais.
Et il dit venez les gars.
Calme, l'image de Rummenigge qui marque et qui remet son short, elle restera pour moi dans ma tête.
Moi, Daniel, c'est marrant parce que c'est l'image où lui, il est calme, il s'énerve pas, il marque et il dit, avec le geste de la main, il fait venez les gars. Allez, il y en a un autre à mettre.
C'est ça.
T'as l'impression de voir Jordan.
Vous êtes allé un petit peu vite quand même. Avant donc Rummenigge marque en prolongation, il s'est passé deux trois trucs avant.
Ah oui.
Donc Lidbarski ouvre le score à la 17e minute dans cette rencontre.
Il fait tourner sa gourmette là pendant après avoir marqué. Ça m'a
avec,
marqué
avec un Ettori pas génialissime. D'ailleurs, pendant un peu toute la Coupe du
voilà.
Monde.
Ettori,
but de Lidbarski.
Il y avait pas une histoire d'ailleurs autour d'Ettori? Non.
De quoi?
Qu'il était nul, c'est une belle histoire quand même. Hein.
Non, mais pourquoi il s'est retrouvé titulaire? Non,
ah, mais parce qu'il y a eu la grosse embrouille avant la Coupe du Monde avec Baratelli et d'Hidalgo. Et après, parce que la légende. Mais alors, ça, Roland doit le savoir mieux que moi. Et on en a parlé mille fois ensemble. Mais il paraît que pendant la préparation, Ettori a été. Mais d'abord, Ettori était un super gardien à Monaco. Il faut le dire. C'était un très, très bon gardien. Qui, en plus, était bon sur les pédons. C'est dire si pendant la séance, il a déçu à jamais bouger.
Ah oui.
Mais en fait, il paraît qu'il a fait une préparation monstrueuse et qu'il s'est imposé comme titulaire.
D'accord.
Daniel, sur les pénaux,
parce que sinon, Castaneda devait être le titulaire. Castaneda, Saint-Etienne, il était bon.
Il fait une préparation extraordinaire. Mais il fait une saison extraordinaire. Parce que tu me
absolument,
demandes.
Absolument.
Où on était. On est en 82. On est champion. Avec le dernier match contre Strasbourg, le but de Barberis sur un centre de Bellone. Mais ce que fait Ettori pendant ce championnat, c'est tout simplement époustouflant. Et là, il arrive en troisième position, mais aux entraînements, il continue. Les matchs de préparation, pareil. Tu as l'impression que c'est très difficile de lui marquer un but.
Oui, alors que c'est pas du tout l'impression qu'il donne sur
ce match. Il fait le premier match contre l'Angleterre, il est aux fraises.
Ah ouais.
Il fait une Coupe du Monde très, très moyenne. Et d'ailleurs, après ce premier match, je crois que Hidalgo hésite de le maintenir ou pas, parce que ça fait déjà beaucoup de changements si en plus il change Ettori.
Absolument. Et Roland, et c'est vrai que tu as raison, ce premier match où la France est catastrophique, mais Ettori, mais je me souviens là pour le coup du peu de commentaires qu'il y avait, mais il avait fait peur. Le but, quoi. Roland, toi qui aimes bien les sorties de gardien sur le but de Robson, là, mais on dirait un gardien de poussin qui joue contre des pros. C'est incroyable.
Je me rappelle très bien de la presse de l'époque. Après l'Angleterre. La France disait, on s'est pris notre raclée face à l'Angleterre, comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que c'est la France de l'époque. On n'était rien.
C'est vrai.
Et en fait, la défaite contre l'Angleterre, elle était logique. Enfin, logique par rapport à notre histoire.
La défaite contre l'Angleterre, c'est le premier match. Hein. Et donc là, on est sur la demi-finale contre l'Allemagne. Donc Lidbarski ouvre le score, 17e. Platini sur pénalty égalise à la 27e.
Attention, sur ce péno, il faut dire, faute de Karl-Heinz Forster sur Dominique Rocheteau. À l'époque, les Allemands, et notamment Forster, prenaient toujours le 9 en marquage. Et les mecs qui ont pris le dessus sur Forster, il y en a pas beaucoup.
Il n'y en a pas des mecs.
Mais vraiment pas beaucoup. C'était un stopper, mais énormissime. Il y a Paolo Rossi qui mettra un but en finale. Mais avant ça, le 9 avec Forster, il voyait pas beaucoup le jour. Hein.
Ouais.
Et il a fait faute quand il ceinture Rocheteau. Il obtient le penalty qui est transformé par Platini. Ouais.
Platini sur ce match-là, c'est le grand Platini ou on attendait un peu plus parfois?
Non, le bon Platini, mais pas le grand Platini.
Moi, j'ai pas.
Il est toujours à la manœuvre des actions. Il est bon sur cette Coupe du Monde. J'irai, c'est je pense un peu au-dessus.
Ouais.
D'ailleurs, je crois qu'il terminera même devant lui au classement du Ballon d'Or à la fin de l'année. J'irai, c'est très très bon. Mais Platini, oui, il est là quand même. Bon, pour moi, c'était quand même le boss de l'équipe. Hein. C'était vraiment lui le patron.
Ah bah oui.
Quand même.
Oui. Ah bah ça va se voir sur les attitudes.
Tigana fait une grosse Coupe du Monde aussi.
Ouais. Mi-temps un partout, donc dans cette rencontre après l'égalisation de Platini, et puis arrive donc l'épisode Schumacher. Même si juste avant il y a quand même déjà des prémices avec des contacts, parce que donc il y a l'arbitrage de Monsieur Korver, le Néerlandais, qui va être beaucoup remis en question, notamment par les commentateurs de l'époque,
hein.
Parce qu'il y a quelques actions un peu litigieuses où en gros on sent que Harald Schumacher, le gardien de but, laisse traîner tout ce qui peut le laisser traîner
chaud,
à chaque
il chaud,
fois.
Il est bouillant, hein. Il est bouillant, Schumacher.
Ah, c'est pas avant le problème, le choc avec Batiston, il y a quand même deux trois comportements
ça, hein.
où, où tu vois qu'il faut pas le chatouiller.
Exactement. Et on le verra donc avec cette action pour Batiston. Batiston qui se retrouve donc en position d'avant-centre, en face à face.
Ouverture de Platini.
Exactement. Alors Batiston qui sera rentré à la place de Gengini à la 50e. Et donc Batiston qui se présente tout seul sur cette belle ouverture effectivement.
Il rate son grand pont. Hein. On peut dire qu'il rate son grand pont.
Disons que la prise d'appui est compliquée.
Il a fait un grand pont à la Lady Di.
Oui, parce que. Alors, si c'est un, je sais pas si c'est un grand pont. Il veut
tirer. Non, il pousse le bal parce qu'il arrive le premier puis il se fait déglinguer. Hein.
D'ailleurs, les Roland.
Je crois pas qu'il veut tirer, toi.
Non, il est en extension. Il essaie d'avoir le premier la balle. Peut-être, tu vois, pour essayer d'aller de continuer avec le ballon, mais il tire pas.
Et après, effectivement, il se fait découper par Schumacher.
Mais quand il se fait découper Schumacher, pour moi, il ne sait pas qu'il n'y a pas but. Il pense qu'il y a but. Et sur la lancée, il s'est laissé aller, mais pas avec la haine et la méchanceté de se dire, bon, allez, il y a but parce qu'il est lobé. D'ailleurs,
il passe pas très
loin. Et donc, sur la lancée, tu as marqué, tiens.
Non, non, mais c'est dingue parce qu'en fait, ça, c'est la vision française. J'ai relu des livres pour préparer mon intervention, de ce que disaient des journalistes de l'époque, etc. Et en fait, eux considèrent qu'il n'y a pas faute de Schumacher sur Batiston.
Pour moi, il ne le touche pas. Moi, j'ai vu une caméra qui montre qu'il ne le touche pas.
Moi, j'ai bloqué juste sur un truc. Quelqu'un a lu un livre avant de préparer une intervention en Team
Dugas. Tu es d'accord avec eux?
Ah, mais moi je comprends par rapport au contexte de l'époque qu'il n'y ait pas rouille. En fait, ce qui choque en Allemagne, en fait, parce que quand même, il y a des choses qui sont passées.
Oui, à l'époque, il n'y avait jamais de carton rouge, de toute façon. Non,
mais exactement, au moins, il n'y avait jamais de carton rouge. Or, en fait, il n'y a même pas faute, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas carton jaune. C'est ça qui choque, en fait, les journalistes de l'époque.
Moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a même pas coup franc.
Et je le dis et je le redis à chaque fois, vous faites de l'émotion sur cet acte. A posteriori.
C'est vrai qu'à l'époque, on n'en avait pas, je reconnais.
Vous êtes tous en train de regarder le ballon qui passe sur le côté gauche des buts. Vous ne savez même pas qu'il y a contact entre Batiston. Et c'est a posteriori qu'une fois qu'on a les ralentis, que vous voyez les choses.
Mais a posteriori, on voit que Zidane met un coup de boule. C'est pareil.
Je ne vois pas où tu veux en venir, Polo.
J'en veux que les gens, en fait, se trouvent des excuses par rapport à ce qui s'est passé a posteriori et pas sur l'instant.
Mais pourquoi? Non, encore une fois, je vous dis. Sur l'instant, il est complètement KO, il sort sur civière. Enfin, tout le monde se rend compte de la portée.
Il avale sa langue, il lui pète dedans.
Oui. j'avais le sang glacé, j'avais 8-7 ans. C'est une des horreurs que j'ai. Moi, quand mon grand-père me disait, il y a un méchant moustachu allemand depuis
Polo,
30 ans, c'est lui, moi.
Oui, mais tu dis quelque chose. Soit on peut répondre, soit tu vois. Je veux bien te suivre.
Ne parle pas de nous, sinon.
Si vous me demandez d'intervenir pour confirmer ce que la vision française.
Non, mais tu dis des choses sur la vision française. Tu nous mets en cause en disant, vous voyez le truc seulement a posteriori en vous cherchant des excuses.
C'est pas vrai.
On peut répondre à ça quand même.
Mais non.
C'est exactement ça.
Non, mais quelle limite? On ressorte toutes les petites interventions de Schumacher où il est limite sur le match en disant, bon, là, il exagère, etc.
Mais cette action
prise indépendamment, comment tu peux dire que c'est une excuse?
Prenez les contextes des matchs de l'époque. Prenez Maradona qui se fait assassiner à chaque match. Vous dites pas à chaque match, il aurait dû y avoir rouge sur telle ou telle personne.
Mais bien sûr que si.
Vous faites de l'anachronisme historique. C'est-à-dire que vous êtes en 2020.
Je pensais pas que tu nous détestais autant.
Non, mais attends, Polo, ce que tu veux nous dire, Polo, c'est que c'est aujourd'hui seulement qu'on parle de cet attentat et qu'à l'époque, on n'en parlait pas. C'est ça que tu nous dis?
Non,
c'est pas ça.
Oui, traduit, Daniel.
Il faut rappeler le contexte de l'époque.
Effectivement, le point, je pense, où Polo veut insister, c'est que sur le coup, évidemment, on se dit c'est aberrant ce qu'il fait, il y a faute et tout, mais c'est plus ce que dit Roland. Moi, je me souviens, il y a quand même coup franc. Mais rouge, à l'époque, ça n'existe pas.
Non, c'est vrai, on n'y pense pas.
Même Julien, quand tu dis le Argentine-Cameroun, si tu te remets, on était quand même plus âgés déjà en 90, Bon, moi, c'est quand on le revoit maintenant qu'on se dit, putain, c'est ouf ce
qu'ils font, les Camerounais sur
Maradona et
Kadja. Moi, ça m'avait marqué. Hein.
Oui, c'était marquant, mais à l'époque, c'était un peu commun de ce genre de truc sur les terrains. Quand des mecs se mettaient en tête de dessouder, et en plus, des exemples dans les années 80, il y en a plein. Rappelle-toi, mais... Christophe a dû vivre ça, gamin à Bordeaux, mais le match où Tigana se fait péter dans le Bordeaux PSV de 88, là, avec Sébastien Tigelen, je crois, je ne sais plus, le néerlandais qui lui démonte. Il avait un contrat et tout. Ce genre de truc-là, exactement comme dans un Marseille-Bordeaux, quand Giresse était parti à Marseille et qu'il est revenu à l'Escure, où Carnotror a descendu tout le match, ce genre de truc arrivait dans le foot. Donc, avec le regard de 40 ans plus tard, ouais, ça fait rigoler et tout, comme le dit Polo. Mais.
Non, mais là, il y a 15 mètres d'élan.
Ce qui est ouf, c'est qu'il n'est même pas coup franc. C'est là où tu te dis, mais monsieur Corvert, il délire ou quoi? Pour ce qui est du carton rouge, pour ce qui est de la méchanceté et tout, il y en avait sur les terrains à l'époque. Ouais. Franchement, il y avait des trucs de malade sur les terrains.
Non, mais c'est le coup franc qui est choquant. C'est le fait qu'il pose le ballon et que l'arbitre, il est à côté de Schumacher en attendant. Bah, c'est ça qui nous a marqué. En fait.
Ça, il y a la violence du choc aussi. À l'époque, on en parlait quand même de tout ça. Ça a pris des énormes.
Moi, tu me diras si c'est pas ce que vous avez ressenti. Moi, ce qui m'avait choqué, bon, j'étais que gamin, mais c'est de voir que Schumacher se désintéresse. Ça, c'est la violence. Il se désintéresse de Batiston. Il a posé le ballon en attendant le 6 mètres. Et l'arbitre, il est à côté de lui et il attend aussi. Je te jure, ça, c'est en vrai encore plus choquant que la faute. Et
oui, c'est limite que toi de dégager.
Si Schumacher était allé le voir, ça va et tout, machin et tout, il y aurait peut-être eu un truc différent.
Oui, au moins, qu'il fasse au moins son faux cul, quoi.
Là, il y avait une froideur, mais qui était d'une.
Et parce que dans cette Coupe du Monde, je vous assure que ce que fait Gentile avec Maradona dans le Italie-Argentine,
ah oui, c'est violent,
franchement,
c'est... Oui.
Ce match-là, il est. Ardiles horrible. Termine avec le maillot complètement déchiré. Maradona. Et le truc complètement dingue, c'est que Maradona termine avec le carton jaune, alors que Gentile ne prend même pas un carton jaune sur ce match-là. Ouais. Et dans le Argentine-Brésil, où les Brésiliens, les fameux poètes de 82, une des plus belles équipes de l'histoire, eh ben les Brésiliens, qu'est-ce qu'ils mettent à Maradona et qu'est-ce qui se passe? Maradona se venge, rentre pied en avant dans un Brésilien,
il prend carton rouge.
Dans la vraie question. C'était rarissime à l'époque.
Ouais, alors est-ce que c'est pas Batiston qui a fait faute? Voilà, Polo, c'est
non,
ça.
Le contexte, il est bon à expliquer. Il y avait des matchs qui étaient des trucs, parfois des trucs de sauvages.
Mais moi, je vous suis. Mais moi, là où je ne vous suis pas, parce que j'ai lu des trucs aussi quand même, c'est de dire qu'à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste, cet attentat.
Non, c'est pas passé comme une lettre à la poste.
Je t'ai dit que ce qui a choqué aussi en Allemagne, c'est le fait qu'il n'y ait même pas eu coup franc.
Ah bah, en fait, c'est ça.
Mais l'action en elle-même, d'ailleurs, on ne sait toujours pas si Schumacher a fait ça pour taper Batiston ou si, comme lui l'explique, il ne savait pas s'il pouvait se faire lober ou etc. Moi, je suis désolé. En Allemagne, je peux t'assurer que les journalistes, y compris les nouvelles générations, ne jugent pas le fait s'il y a faute directe volontaire. Le fait qu'il y ait faute, c'est une chose. Le fait, est-ce que c'est une action complètement volontaire pour flinguer Batiston, c'est beaucoup plus ouvert en Allemagne.
Et Jean-Louis, Batiston est rentré à la mi-temps à la place de qui?
À 50e, il remplace Gengi. Voilà, donc première partie, c'est pas terminé, hein, notre débrief de France RFA 82. On a fait les faits, on va terminer sur cet aspect et puis on va s'interroger sur les conséquences de cette élimination pour le football français. A tout de suite dans le meilleur de Tim Dugas.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Tim Dugas.
Vous vous souvenez peut-être où vous étiez ce soir de 1982 lors de France RFA, ou si vous êtes trop jeune, vous avez sûrement le souvenir d'une conversation avec vos parents fans de foot qui, eux, ont été traumatisés par cette rencontre. On continue de débriefer cette demi de Coupe du Monde dans Team Dugas. On l'a fait cette semaine. On s'est aussi interrogé sur les conséquences de cette élimination pour les Bleus. C'était cette semaine avec Daniel Riolo, coach Courbis, Christophe Dugarry, Julien Cazard et Polo, notre spécialiste du foot allemand. Donc, un partout... Prolongation.
Ah bon?
Prolongation.
À l'expression, j'adore.
Et la première période de la prolongation est magnifique pour les Français. Le but de Trésor, la reprise de volée, le but de Giresse.
C'est réaliste, hein, on n'y croit pas à ce qu'on voit. Hein.
À la prolongation, oui.
Oh, franchement, quand Trésor, il met cette volée.
En
là,
plus,
il...
les buts sont magnifiques.
Ah, moi, je me dis, mais vient d'où?
Trésor, Thuram, Pavard, on est quand même le chic pour avoir un mec sorti de nulle part en défense qui met un but en demi-finale, quand même. Hein.
C'est vrai. Giresse, donc 98e, marque le but.
Petit-i.
À l'époque, Thierry Roland dit c'est bon, on est qualifié. Jean-Michel Larquet lui dit attendez un peu, Thierry, attendez.
Que j'ai pleuré.
Voilà.
C'est pas la France à un pied en finale? C'est pas ça,
toi? Oui, peut-être.
Non, c'est in the pocket. Bah oui, c'est in the pocket, bah, là.
Ça, j'ai plus...
Non,
c'est in the pocket. C'est que la France à un pied en finale, c'est pas.
C'est normal de le dire.
De ça, ma foi.
Sauf que Rummenigge est entré, effectivement. Ah. Et donc, ce dont vous avez parlé tout à l'heure, il réduit l'écart à la 102e minute.
Et là encore, la défense est étourdie dans la surface. Ouais.
Jean-Louis.
Oui, Polo.
Jean-Louis.
Oui.
Karl-Heinz, qu'est-ce que ça veut dire en français?
Charles-Henri.
Parce que quand
Charles
j'étais
Jean.
Petit. Si.
Charles
quand
Ketchup
j'étais petit.
Moi, mais...
Quand j'entendais Charles le mot Karl-Heinz, moi, je me planquais.
Moi aussi, hein.
Moi, je me planquais. Et quand j'ai appris que ça voulait dire Charles-Henri ou Charles-Henriot en vieux François, eh ben, c'est pas tout à fait la même chose.
Et pourquoi tu te planquais?
Et parce que Karl-Heinz, j'avais peur.
Ah, d'accord. Ouais, ça fait non, peur, Karl-Heinz.
C'est vrai qu'à l'époque.
Quand t'es gamin, quand t'as 8 ans, 10 ans et que tu sais ce que représentent les Allemands. Et...
Ça fait plus peur que Mesut Özil. Mesut Özil, t'as moins peur.
C'est vrai. Ou Horst.
Ah ouais.
Horst.
Non, excuse-moi. Parce
que Roubaix, c'était Hans-Peter Briegel. Ça foutait les jetons, Hans-Peter Briegel.
C'est décathlonien, mais t'as Gigi Lamoroso d'un côté et un décathlonien de l'autre. C'est extraordinaire.
Briegel, c'est pas seulement son nom que ça foutait les jetons.
Moi, Horst Roubaix, ça me fait peur. Je vous le redis quand même.
Roubaix qui est rentré aussi dans ce match.
Voilà, c'est pour ça. Exactement, la 73e. Donc, Rummenigge. Oui, ouais,
quand Rummenigge marque, c'est, je sais
là
pas.
Là, vous dites c'est mort.
Moi, devant la télé, j'ai dit
Moi, là, je me dis plus rien, je transpire et j'ai peur. J'en suis pas à me dire des choses à ce moment-là.
Oui, parce que Fischer. Donc,
on a fait une Thiago Silva.
Klaus Fischer. Oui. Klaus Fischer, avec qui fait sa space.
Quel but il met quand même, hein, la remise de la tête.
C'est sa spécialité en plus.
Le retourné, il est un peu couché, il est un peu chelou quand même.
Ah, mais il est beau quand même. Et puis là encore, ce que fait Ettori et la défense sur
ah, le surtout, coup,
là,
surtout.
Oh, là, là.
Ah oui. Mais Ettori, j'allais dire, va se rattraper dans la séance de tir au but. Pas du tout. Puisque on l'a tous en tête. Ettori qui.
Il chope le premier quand même. Hein.
Oui.
C'est le troisième. Non, mais c'est le premier qui rate. C'est, le,
oui.
c'est lui qui.
Ah oui,
si
oui, c'est vrai. À ce moment-là,
le premier raté, il est allemand.
Oui,
le premier raté.
T'as raison. Donc, en fait,
avec Gilles Smart qui console le Stilicur en lui montrant le penalty raté de Six, je crois.
Qu'on n'a pas vu à la télé. Six, on l'a pas vu à la télé.
Kaltz et Breitner marquent leur penalty. Gires Amoros côté français. Stilicur rate le sien. Rocheteau marque. Donc, il y a 3-2 à ce moment-là. Normalement, souvent, tu pars bien comme ça.
En parlant d'Amoros, t'as oublié, à moins que je l'ai pas entendu, mais quand même, la frappe sur la barre à la dernière minute.
Exactement. Ah oui. Non, je ne l'avais pas dit. Ensuite, ouais. Lidbart qui marque, Didier Six rate, Rummenigge marque, Platini marque le sien, et ensuite Roubaix marque et donc
Six, tu sais ce qui lui tombe dessus, le pauvre Didier Six?
Bah, dis-moi.
Bah, il jouait en Allemagne.
Ah oui.
Dans ce match, il est passé pour le collabo.
Ah, mais c'est vrai, j'ai plus souvenir de
certains,
ça.
Certains avaient dit, c'était horrible hein, ce qui se disait à l'époque, mais on était vraiment le.
Bah, c'était.
Il y avait franchement ça. Plein de gens ont écrit des bouquins sur le fait que ça ressemblait à la guerre. Que évidemment, il y a plein de choses qui sont remontées autour de ce match-là.
Est-ce qu'on peut expliquer le contexte politique de l'époque?
Bien sûr.
Parce qu'on l'oublie complètement. En fait, évidemment, François Mitterrand arrive au pouvoir en 1981 et il y a une chasse aux sorcières dans les médias à l'époque. Faut pas l'oublier. Et donc vous avez une nouvelle génération de journalistes qui arrivent, évidemment de gauche, et eux sont beaucoup plus intéressés. Mais non, enfin. Non,
oui,
je suis très sérieux. Et eux, ces journalistes, ils sont en train de valoriser la RDA par rapport à la RFA, et y compris à la Fédération française, puisqu'on va faire des stages en RDA pour échanger. Et donc la RFA, c'est devenu le mal ultime de ces Allemands super riches, etc., symbolisé évidemment par la sélection allemande. Et ça ne m'étonne pas qu'on ait dit dans les journalistes, que moi j'avais été très choqué à l'époque, donc j'avais 10 ans, 11 ans, et bon, je lisais beaucoup des choses comme ça, sur la façon violente dont on écrivait alors, sur l'équipe d'Allemagne de l'Ouest.
Polo, alors juste, moi je pense qu'il y a aussi les journalistes, mais pour les gens, la RFA, c'était l'Allemagne, alors que l'RDA, il y avait un côté, c'est l'Union soviétique. Donc en fait, les vrais Allemands à détester, les Allemands de la guerre, c'était les Allemands de la RFA.
Oui. Bah, bien sûr,
oui, mais on n'arrêtait pas. Il y avait des articles partout qui sortaient, comme quoi les Allemands, avec leur BM et tout leur pognon, c'était l'histoire du miracle économique allemand, arrivaient forcément dans le sud de la France, et ceci et cela, avec leurs oseilles, leurs Deutschmark, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et tu avais beaucoup de préjugés par rapport à ça. Et c'était beaucoup moins sur la RDA, évidemment. Et encore une fois, il y avait un contexte politique très important en 1981 qu'on a complètement oublié.
Heureusement, il y a
c'est vrai. Je ne vais pas citer un journaliste qui a eu un poste très important à l'Élysée à un moment, mais ce gars s'était excusé de ses articles quelques années après parce qu'il estimait qu'il consommait beaucoup trop de boulawen. Donc il faut
voilà. C'était très intéressant, Polo. C'est pour ça que Six a raté quand même.
Je me souviens que ça lui est tombé dessus.
Six.
En ce qui concerne les pénalties, pour ce qui est
de l'Allemagne, c'était Six.
Ah, c'est dit.
Oui, coach. Il nous reste plus qu'une minute, hein, je vous le dis, avant de partir dans les grandes thèses.
Ettori, que j'ai eu le plaisir de jouer avec pendant quand même 5 ans à Monaco, il avait une astuce, ou plutôt une stratégie. Une stratégie, c'est que pour lui, un droitier, quand il tirait,
Ben, dans les stats et dans ses habitudes, c'était pas pied ouvert, c'était pied fermé.
Il croisait.
Donc, ouais. Et il attend chaque fois que le droitier croise.
Il a jamais croisé, oui.
Sauf Stiliqué.
C'est lui qui sort.
Qui ferme le, et c'est celui qui l'arrête.
On a plus le temps pour le reste, messieurs. C'était passionnant.
Cela n'avait pas marché.
On a rigolé, je suis désolé, il n'y avait pas faute. On n'est pas vu.
Non,
pour rien.
Mais faute de Battiston sur Schumacher.
Et Roubaix nous a tués.
Chaque victoire n'est pas un gain. Chaque victoire n'est pas un gain. C'est la grande leçon allemande de ce match-là. C'est-à-dire, pour la première fois, les Allemands ont compris que le plus important, c'est pas de gagner, c'est d'avoir l'esprit du jeu. C'est un truc qu'on a complètement oublié.
Surtout que ce jour-là, ils avaient fait match nul.
En plus, c'est vrai. Et la France n'a pas perdu. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir alors. Alors, Daniel, est-ce qu'on peut dire que ce France-Allemagne 82 a eu des conséquences sur la suite, alors pas forcément en 86, mais sur la suite du développement du foot français, avec peut-être parfois un jeu moins romantique et plus pragmatique?
En fait, ça faisait déjà... Alors, ça n'avait pas forcément impacté la sélection d'Hidalgo, qui était quand même au niveau du jeu... Je ne vais pas refaire le côté les Brésiliens de l'Europe, surnom qui viendra plus tard. Mais de toute façon, la France a toujours cherché à copier ce qui se faisait à l'étranger. Donc on était déjà dans une période où il y avait beaucoup d'interrogations sur comment jouent les Allemands, et on voulait leur piquer leur côté un peu discipliné, rigoureux, enfin les vieilles images qu'on avait sur eux. Mais ça datait déjà de l'épopée de Saint-Etienne qui avait perdu contre le Bayern. Donc on était déjà un petit peu dans cette phase de réflexion d'être un petit peu plus costaud sur le terrain. Non, les conséquences, c'est les retrouvailles. On n'aurait jamais imaginé que 4 ans après, l'occasion était donnée d'une vengeance en direct, après celle des cousins de 82. Cette demi-finale en demi, et ce que j'avais trouvé, moi, complètement stupéfiant, et là, Polo, ça va forcément l'amuser et le faire ricaner, c'est que non seulement tu savais ce que les Allemands étaient capables de faire, t'avais morflé avec Saint-Etienne, t'avais morflé en 82, et cette demi-finale, dans l'euphorie de ce qui s'est passé en quart contre le Brésil, les Français pourtant fatigués.
Oui, mais alors attends, Daniel, pardon. On va y revenir en détail là-dessus. Il y a aucun souci, mais juste quand même avant. Moi, j'ai quand même dans la tête le souvenir des mecs de 98. Donc ça tombe bien que Dugas soit étonné par tout ce que je dis, mais moi je me souviens quand même que la génération 98 a grandi avec le traumatisme de Séville 82, où en gros, à un moment donné, faut savoir aussi fermer la boutique, arrêter d'attaquer à tout va, et ce pragmatisme a été développé.
Mais c'est pas développé
par le fait qu'il joue tous en Italie.
C'est développé par l'Italie. Quand les grands modèles du foot français, il y a celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. C'est celui de l'Allemagne dont je t'ai parlé. Et ensuite, il y a eu le modèle italien. Le modèle italien, c'est Tapie copie un peu modèle italien. Ouais. C'est le réalisme. C'est effectivement France 98 est nourrie du football italien, et c'est ça que tu retrouves d'ailleurs. Le quart de finale de 98, c'est un peu on bat notre maître, quoi. Les Allemands à ce moment-là sont un petit peu oubliés à ce moment-là quand même.
Ils sont nuls.
Alors en 98, on est déjà agréablement surpris d'être qualifié. Alors donc puisque c'était quand même le problème.
En 98, je suis au Stade de France.
Oui, Polo.
Je suis au Stade de France pour ce match France-Italie qui est fou en fait.
Oui.
Parce que évidemment il n'y a pas une équipe qui est supérieure à l'autre, ça se joue à rien du tout. Lorsque les Italiens attaquent, il y a eu un contre notamment. Il y a plus un bruit dans le stade tellement.
Oui, l'occasion de Baggio.
Je peux t'assurer que nous en tribune, on flippait, mais c'était comme pas possible. Quoi, je vais rester poli.
Bon, là on a dévié.
Non, on a dévié, mais si vous me dites.
Je croyais que tu allais me parler de la Bulgarie qui avait éliminé l'Allemagne, donc je ne comprends pas.
Non. C'est-à-dire.
Non, je ne vois pas plus loin. Moi, dans les conséquences, pour l'instant, il y a un match dont on parlera peut-être tout à l'heure, que moi j'appelle un petit peu le petit frère de France 82. Si on oublie donc visiblement la demi-finale de 86, parce que tu vas en parler plus tard.
Ouais.
Le petit frère de 82, je pense que tout le monde a en mémoire ce match qui est Auxerre-Dortmund de 93.
Ah bah oui.
Cette demi-finale est complètement folle parce que finalement, même si beaucoup de joueurs français commencent un peu à partir à l'étranger, on est encore dans un football assez national avec les mecs qui jouent dans les pays. Auxerre en France à ce moment-là représente d'abord et aimé de toute
le
la
terroir,
France
un peu.
Parce que c'est le terroir, parce que c'est le bon sens populaire. Giroud est une idole pour tous ceux qui aiment le foot en France parce que il a justement ce côté le football paysan. Ce qu'on aime en France, c'est-à-dire le petit qui réussit, c'est ancré dans notre mémoire collective, dans notre mémoire footballistique. Et on retrouve des Allemands en demi-finale et ça se termine de la même façon après un match épique parce que le match retour il est fantastique à la Baie des Champs et ça se termine au péno. Il y a le gardien de Dortmund, comment il s'appelle, Polo, qui a une tête pareille un peu de pas mec gentil.
C'est Klose.
C'est ça. Il y a Maé qui rate le péno et il a une tête
de petite
victime. Je crois quand même qu'il a une attitude qui ressemble un peu à celle de Bossis.
Ça c'est pas le retourné de l'Asland.
Non, c'est après, 97.
Cette demi-finale au CERN Dortmund, elle est quelque part un peu le petit frère. Okay. C'est encore une fois les Allemands qui te plantent dans une demi-finale de club et il est vraiment ce match-là. Je sais pas si vous, Duga, Roland, vous vous en souvenez, mais émotionnellement, il est très très fort.
Et c'est encore les Italiens qui nous vengent hein, derrière.
Oui, mais alors là, c'est pas du tout la même chose. Non. Mais le Auxerre Dortmund, il était
bon,
fort.
Donc pas plus
et
de beaucoup avaient parlé. Ça, okay.
Beaucoup de gens avaient parlé d'ailleurs et avaient fait un revival France 82. Encore les Allemands en demi et la France représentée par le petit Agia qu'on aimait tous quoi.
Et Duga, quand t'as commencé toi à jouer, est-ce qu'on te parlait parfois de ce France Allemagne 82 ou pas du tout?
Non, pas du tout.
Non, d'accord.
Non, ben j'avais 10 ans moi. Voilà. Après, quand je l'ai vu, après quand. On parlait beaucoup des clubs, quoi. Ouais. C'est l'équipe de France. Enfin, moi, j'ai souvenir qu'elle gagnait pas grand-chose, même si il y avait des joueurs de légende pour nous. C'était des références. Moi, j'avais la chance d'avoir Alain Giresse comme modèle. À chaque fois, j'allais voir les matchs à Bordeaux, qui était là. Tigana également. Enfin voilà, Batiston, Marius Trésor. Moi, j'avais la chance de les côtoyer. Donc, j'étais plus proche de mon club que de l'équipe de France. Donc,
quand t'as perdu ta finale contre les Allemands du Bayern, il n'y avait pas cette atmosphère-là un peu, le côté inéluctable.
Ils ont tellement été au-dessus, sincèrement, sur l'aller-retour. Ils sont beaucoup plus forts que nous. On sent bien qu'on est là.
Mais le côté allemand, il n'y a pas le côté ils vont gagner, c'est les Allemands, il n'y a pas ça. Moi, c'est ce que j'avais ressenti à l'époque.
Moi, je l'ai tout au long de ma carrière, je l'ai plus ressenti sur les Italiens. Les Italiens, j'avais jamais l'impression qu'ils étaient incroyables, que c'était des phénomènes. Et t'avais
sauf que tu les as battus.
Oui, on les a battus, mais on a mis du temps avant de les battre. Je trouve que c'est
peut-être aussi parce que toi, t'as
compliqué.
Toi, t'as été marqué par le Juve Bordeaux. Tu parlais que des clubs qui te marquaient plus que la sélection. C'était pour ça aussi.
Oui. Et puis, je me souviens d'un match à domicile contre l'AS Roma aussi, très compliqué, où l'AS Roma était en pleine bourre. Voilà, le Milan, on se fait, sur ce fameux match de 96, à l'aller, on se fait éclater 2-0. On les trouve pas extraordinaires, mais bon, un coup de pied arrêté de Baggio, plus un autre but, je me souviens plus de qui. Ben voilà, c'est une évidence que les Italiens, beaucoup plus que les Allemands, j'ai pas souvenir que les Allemands pour ça. Quoi.
Et quelles conséquences ce France RFA 82 pour le foot allemand, Polo?
C'est terrible en fait. C'est terrible parce que pour la première fois, le foot allemand se rend compte que la victoire, il y a une expression d'ailleurs, c'est chaque victoire n'est pas un gain. C'est-à-dire que le football allemand, les techniciens ont tellement été impressionnés par le jeu français qu'on s'est dit que du côté des Allemands, qu'ils étaient complètement retardés, complètement retardataires par rapport à l'évolution du football. C'est évidemment le retour de l'arrogance.
Attends, pardon, juste quand tu dis chaque victoire n'est pas un gain, ça veut dire c'est pas parce qu'on gagne le match qu'on a raison et qu'on est dans le vrai.
C'est ça. Et en fait, ça fait suite à certaines déclarations, par exemple comme Lothar Matthäus qui vous savez que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le match France-Allemagne, ça c'est côté français, mais France-Allemagne, en Allemagne, ça fait partie d'un contexte qui est la Coupe du Monde 82, où il y a la défaite contre l'Algérie, où il y a le fameux match contre l'Autriche, ce qu'on appelle le match de la honte en Allemagne, on appelle ça le pacte de non-agression. Et tout ça fait que, il y a des déclarations de joueurs qui ne sont plus du tout intéressés par le Man National. C'est l'histoire de Matthäus qui, lorsqu'ils sont passés en 8e, dit de toute façon, tout ce qui compte, c'est de passé. Il y a Dremler qui déclare que de toute façon, suite encore une fois au match France-Autriche, qui déclare que moi, le prestige de la sélection nationale, j'en ai rien à faire, je suis un professionnel. Et donc, on se rend compte qu'ils sont en train de se casser complètement avec les fans allemands en plus. Donc, l'histoire de l'arrogance, elle a fait du mal, évidemment, par rapport au monde qui a regardé cette Allemagne-là, la RFA, qui est évidemment ce que les Anglais ont appelé la Dirty Germany, c'est-à-dire la sale Allemagne, etc. Référence à la période 33-45, évidemment. Et puis, ça a fait beaucoup de mal en Allemagne, mais parce que les gens les joueurs pensaient qu'ils allaient revenir en héros parce qu'ils ont été en finale quand même. Et puis finalement, il y a eu un vrai rejet de cette sélection.
En fait, on retient plus le mauvais match que l'exploit de revenir en prolongation de 3-1 à 3-3.
Alors sur l'instant, évidemment la finale, quand ils sont en finale, quand tu vois tous les médias de l'instant qui disent oh, on est en finale, ça se finit en 8-7 avec les Allemands, une façon de calculer les buts plus les pénalties, donc ça, ah oui. ça fait c'est 3-3, ça fait 3-3 et 5-4 si je me rappelle bien, donc ça fait 8-7.
D'accord.
Et donc c'est comme ça, il dit Endspiel, on est en finale, etc. Et puis 24 heures, 48 heures après, il y a énormément de critiques sur ce qui s'est passé, et c'est l'après Coupe du Monde qui va être terrible, parce que ce qu'on oublie, c'est que Joep Derwall, le sélectionneur, sera viré en 84 suite à l'Euro 84 où les Allemands sont pas en demi-finale, et en fait ils payent les excès de 82 et non pas sportivement ce qui s'est passé en 84.
D'accord. C'est quand même fort quand même de se dire on va réfléchir à notre qualité de jeu quand on gagne. Ils auraient pas gagné, ils étaient en finale. Ouais. Non, attends, ils sont en finale, ils réfléchissent, c'est quand même.
Excuse-moi,
c'est la finale, Christophe, qui leur fait mal. Ouais. La finale, ils n'existent pas. Ouais. Contre les Italiens.
Oui, mais tout remettre en cause sur le match.
Alors, moi, je mets en cause.
Comme si nous, on avait fait ça après l'Euro 2016 parce qu'on a perdu en finale et qu'on n'était pas bon.
Mais Polo, ils ont remis tout en question. Bah,
impensable chez nous.
8 ans plus tard, quand ils gagnent la Coupe du Monde avec Matthäus, j'ai pas l'impression que c'était flamboyant. Non,
j'ai pas dit qu'au niveau de la fédération, ils étaient en train de se remettre en cause. Je dis qu'au niveau du public et des journalistes et des personnes qui suivent, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu vois la sélection allemande de 82, mais tu peux voir celle de 86 aussi, ce qu'ils auraient pu produire comme jeu par rapport aux individualités qu'ils avaient et ce qu'ils ont produit. Il y a un grand débat en Allemagne après 82, si, dans les journalistes, c'est comment est-ce qu'on peut être aussi merveilleux à l'Euro 72 et 10 ans après être aussi merdique, excusez-moi l'expression, lorsqu'on voit ce qu'on produit comme football. Rappelez-vous, il n'y a que 3 joueurs à vocation offensive, Magath, Litzbarski et Klaus Fischer contre la France, alors que la France, elle a quasiment que des joueurs offensifs partout. Et donc, ça pose énormément de questions. Et en fait, c'est une sélection qui, à force de gagner, se nécrose complètement. Parce que regardez ce qui s'est passé dans les années 70 et les années 80, les Allemands sont soit en demi, soit en finale, soit ils gagnent. Et c'est ce qu'on disait à l'époque, c'est-à-dire quand on a une bonne sélection, eh ben on gagne, quand on en a une mauvaise, on est en finale. Donc t'as pas envie de bosser, si tu veux. En fait, le football allemand ne travaillait plus.
Bon, très bien. Et c'est
on est en train de faire pareil, nous. On a été mauvais en 2016, on est en finale.
Ouais, c'est vrai qu'en 1974, l'Allemagne gagne, mais on pense tous à ce qui s'est passé du côté des Pays-Bas.
Bon, ben bah voilà, plus rien à rajouter sur 82 ?
Non.
Non, très bien. Polo ?
Ah, moi, je pourrais tout ce que vous voulez. J'adore, mais ce match, moi, France-Allemagne 82, c'est du sport, évidemment, c'est une compète, mais il y a un tel contexte que c'est extraordinaire. Parce que ça veut dire.
Et la finale,
moi,
Polo ?
À la finale, déjà, les Allemands sont super fatigués, faut pas l'oublier. Et puis les Italiens sont montés en puissance. N'oublions pas, Roland, que l'équipe italienne de 82, c'est celle qui aurait, à mon avis, dû gagner l'Euro 80, mais il manquait Paolo Rossi. À l'époque, vous savez, il a eu un petit souci, un petit souci, puisqu'il avait été, exclu de la sélection italienne.
Et bon, c'était les Allemands qui. L'affaire de Totonero.
Ouais, exactement. Déjà, et en fait, c'est la même équipe.
Déjà en 82, il y a quand même un exploit d'un sélectionneur, parce que ce que fait Paolo Rossi, plutôt ce que ne fait pas dans les matchs de qualification, et le maintenir, il faut lui tirer un grand coup de chapeau, parce qu'après c'est un autre Paolo Rossi qu'il y a dans les matchs décisifs.
Bah, si je me rappelle bien, l'Italie.
Il fait des doublés, je crois, après.
Oui, mais c'est après.
Il fait un massacre à partir des huitièmes.
Enfin, c'est pas vraiment des huitièmes parce que c'est une petite poule à trois.
Ouais, c'est des petites.
Bon, en fait, il ne marque qu'à partir du Brésil. Hein, parce que contre l'Argentine, il marque pas.
Hein. Le Italie-Brésil, c'est
triplé contre incroyable. Le Brésil, deux contre la Pologne et un contre l'Allemagne. C'est ça, c'est six buts.
Ben ouais.
Et puis il y a quand même un but de Paul Breitner, c'est important, en finale. Paul Breitner qui marque en finale, quand même.
Évidemment. Voilà donc pour France RFA 82. On continuera à revenir sur des moments marquants de l'histoire du foot la semaine prochaine dans Team Duga. On revient dans une seconde avec le blind test.
RMC, 18h-20h.
Le meilleur de Team Duga.
On est là jusqu'à 20h pour le meilleur de Team Duga avec le blind test.
Ça y est, c'est le moment, vous le savez, le jeu que le monde entier nous envie, c'est le moment du blind test.
Exactement. Alors, nous allons faire.
Avant, je pourrais féliciter quelqu'un, s'il te plaît, mon Jean-Marie.
Ah, bah bien sûr.
Je voudrais féliciter Laure, qui est maman, donc je voudrais la féliciter.
Ah, ça y est, c'est fait. Bah, bravo, Laure.
Bah oui, elle dit rien, mais c'est pas possible, ça, Laure.
On peut dire le prénom ?
Oui.
Alors, vas-y.
Bienvenue à la petite.
Corinne Diacre. Non ?
Meilleur van de la journée. Non, vas-y, Laure.
Thaïs.
Bienvenue à Thaïs et félicitations, Laure. Bravo.
Et bien, pour la peine.
Corinne va pas être contente, mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. J'espère qu'elle sera au moins marraine, j'espère.
Ah, bah là, j'en suis sûr.
Non, pas de marraine.
Bon, il n'y a pas de marraine. Très bien.
Bon, très bien.
Bon, félicitations, Laure, en tout cas. Wow. Tu feras équipe avec Duga dans ce blind test. Et donc, Fred Hermel.
On va fêter ça.
Voilà, allez. Ah, ouais. Sacrée équipe. Et donc, Julia Cazard, Captain Larquet.
Ça risque de. Là, vous avez. Vous pouvez rigoler d'avance. Allez. Ouais.
Non, mais je pense qu'il faut laisser la musique à Captain et Julien te fait l'équipe.
Ah, j'ai tout à Captain, moi. Je soutiens Captain.
Avec vous, Yanis et Vincent sont là. Bonsoir Yanis.
Bonsoir, bonsoir.
Alors, salut. Tu veux faire avec, équipe avec qui?
Ouh, la question piège. Ouais, je vais prendre Julien. Hein.
Julien Cazard, Captain Larquet.
Alors, Yanis, je te préviens, moi, je ne fais que soutenir Captain Larquet.
Moi, je prends Capitaine Larquet.
Vincent, ah ouais. Bonsoir.
Il a son automne et tout, s'il n'entend rien.
Vincent, sache que tu es avec l'équipe des cheveux longs, puisque Duga, Laure et Fred ont eu les cheveux longs un jour.
Ok, bonsoir à tous. Félicitations à Laure déjà.
Ouais. Bah oui.
Et puis ça me va très bien parce que j'ai la même coupe que Franck Leboeuf.
Ah oui, alors maintenant ils ont tous la même coupe que Franck Leboeuf. Hein. Même Laure.
Ouais, sauf moi.
Franck Leboeuf qui va être maire de Suresnes, on l'embrasse.
Okay. Il lui aussi,
croit quoi.
Ouais.
Il y croit.
Allez, on y va. Une chanson, vous trouvez l'interprète et derrière il y aura une question foot pour les vrais connaisseurs de foot. Bien sûr, on y va. Ça c'est pour Captain.
Cabrel?
Non.
Et c'est encore, c'est pas la même que la dernière fois.
Tracy Chapman?
Non.
Le Forestier.
Oui, Fred Hermel, Maxime Le Forestier.
C'est une
maison bleue.
Magnifique cette chanson.
Et donc c'est Fred Hermel qui répond, hein, avant toi, Captain.
Bravo, Fred. Je pensais qu'il allait dire c'est une maison blanche, moi.
Fred, oui, bien sûr.
Continue,
évidemment.
Pour une fois que tu dis.
Alors, Maxime Le Forestier. Donnez-moi un joueur de foot qui a la particule le dans son nom.
Le marchand,
Captain.
Le Grette, tu sors Le Grette. Hein.
Le Grette, oui. Ça passe pas. J'ai dit ouf sur Le Grette, en fait.
Mais Le Grette, il a jamais joué au foot?
Bah, à ton avis.
Ah bah, à mon avis, non. S'il est président de la Fédé, il a dû au moins taper dans un ballon une fois dans sa vie, non?
Mais
non.
Il a le corps de passe-partout à la tête de Cabu.
Mais bref, ces propos n'engagent que toi. Je suis solidaire. On embrasse Noël, c'est ce que tu viens de dire.
C'est tout pour moi, merci.
On embrasse Noël.
J'ai vraiment aimé faire partie de cette émission et de ce métier du football. Au revoir.
Donc ça fait un partout, même si ça pourrait mériter un point pour Julien, mais non, quand même.
Ah ouais, je pense qu'on peut lui donner.
Non, quand même. Nouvelle chanson, on y va. C'est pour Captain.
Stromae.
Non.
Alors, non, je sais pas.
Ah oui, c'est Camini.
Camini.
C'est moi, c'est moi, c'est moi.
Qui c'est
Camini?
La Picardie,
les Hauts-de-France.
Ouais, c'est
ça. Non, en fait, il est Carlos Camini. Ça n'a absolument rien à voir.
C'est Camerini. Qui est Camini?
Camini, Captain, tu l'avais pas?
Ah non, celui-là, non. Celui-là, il peut me marcher sur les arpions, Camini. C'est un gars ou une fille?
C'est un gars, c'est un grand.
C'est un gars.
C'est génial, en plus.
Frérot, hein.
La chanson, c'est Marly Gaumont, figurez-vous.
En fait, c'est un rap, mais de village.
Ouais. Rap de village
contextuel.
C'est ça.
Allez, enchaîne là. Allez.
J'enchaîne avec la question foot. Nous cherchons donc un joueur né en Picardie, comme Camini, à Amiens, même précisément. Il est passé par l'Inter,
Sunderland,
un joueur de foot.
Yann Mvila.
Oui, Captain Larquet, Yann Mvila.
Oui.
Incroyable.
Tu sais ça, Capitaine, toi.
Ah, il est fan de Yann Mvila.
Mais il a ressuscité.
Je le supporte pas.
Il a pour l'accent picard. Je le supporte pas.
Il parle pas.
Tu le supportes pas. C'est pour ça que tu sais où il est né. D'accord. Ah, je sais pas.
J'allais finir en donnant comme indice qu'il avait dans les pieds une passe Ligue des Champions, comme disait Antonetti à l'époque à Rennes. Ça fait deux
passes sur les antennes, Camini, lui.
Bah, à l'époque, c'était un tube,
Phénomène.
Évidemment. On y va, nouvelle chanson. Deux partout, match magnifique.
Tommy Bugsy?
Non, pas Tommy Bugsy. Pas loin.
Ah, mais non, MC Solar.
Ah,
non.
Gims, Maître et Gims, non?
Non.
Donc, Gineco.
Et les Sarah Mer?
Non.
Ayam. Pas si.
C'est Vincent.
Ouais, c'est Vincent.
Bravo, Vincent. 3-2 pour l'équipe du gars.
Bien joué, Vincent.
Merci, Vincent.
Franck Passy.
Et oui,
Gérald Passy.
Question sur Franck Passy, effectivement. Franck Passy a une ligne à son palmarès d'entraîneur. Quelle est-elle, cette ligne?
Champion de Ligue 2?
Non.
Saint-Jean-de-France?
Non.
Champion de France?
Non.
Adjoint?
Non.
Toulouse?
Non.
Mais c'est pas des clubs.
Je vous demande une ligne de palmarès, c'est pas un club.
Ligue 2, champion de Ligue 2.
Non.
Champion de France amateur ?
Vous ne l'avez pas. C'est perdu.
Gambardella ?
Non. Finaliste de la Coupe de France 2016, gagné par le PSG.
C'est une ligne, ça ?
C'est une ligne, ça.
C'est une ligne.
Oh là 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 là.
C'est pas un trophée.
J'ai pas dit qu'il a gagné un trophée. J'ai dit une ligne de palmarès.
Mais tu le mets pas sur ta carte de visite,
c'est ça ? Pas quoi, t'as 10 titres de champion de France. Tu les mets pas, tes finales perdues. Mais certains les mettent, voilà.
Les mecs, il y en a qui mettent les finales achetées. Pourquoi pas les finales perdues ?
Ça fait 3-2.
Les cadeaux.
Et voilà, magnifique Julien. Nouvelle chanson, match toujours aussi serré.
Avec qui on joue, nous, Julien ?
On joue avec Yanis.
Mais c'est Jodassin.
Yanis est là. Ah oui, Julien. Et oui, 3 partout. Julien, il répond. En même temps, il répond à Captain Larquet.
C'est quoi ces chansons des vieux, là ?
Bien joué, Julien.
J'ai le soleil sous la pluie.
Passy et Camini, c'est
pour toi,
du gars.
C'est plus regard Passy encore.
Aux Champs-Élysées.
Faussement jeune.
Joe Dassin, les Champs-Élysées. Quel est le joueur de champ le plus utilisé au PSG cette saison ?
Verratti.
Non.
Verratti.
Marquinhos.
Non.
Marquinhos.
Non. T'as rien de répété.
Mbappé.
Ah, le joueur de champ.
Non. 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 Toujours pas Marquinhos. On peut réessayer, mais c'est toujours pas.
Di Maria.
Di Maria, Captain Larquet.
Oh, t'es là.
4 à 3.
Entre Joe Dassin.
Nul.
Caminis, il m'avait. Je l'avais.
Caminis,
c'est pas du tout. Bon, j'arrête là. Avec qui on joue, nous ?
Toi, tu joues avec Julien et Yanis. Yanis qui a répété Marquinhos après tout le monde. C'était bien tenté, Yanis. Mais ça n'était pas ça.
Ouais, on sait jamais.
Ouais, on sait jamais, bien sûr.
Julien, t'as trouvé une réponse.
Joe Dassin, juste
avant.
Frérot.
Nouvelle.
J'adore. Manque pas de respect, frère.
Quand t'appelles Capitaine frérot. Allez, 4-3. Dernière chanson et dernière question foot derrière. Voilà pour 4
points. Jay-Z.
Du gars Jay-Z, bien sûr. 4 partout.
Je connais pas.
Du gars qui peut remercier, bien sûr, l'agence du Gary autour de lui, qui lui permet de
faire un truc de réponse.
Ah, chacun s'organise comme il veut, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Il a une équipe, hein. 4 partout. La question foot qui va être donc cruciale. Donnez-moi un joueur de foot dont le nom commence par un Z. Jay-Z.
Zidane.
Zidane.
Ah bah Zidane.
Oh, j'ai eu du gars sur Zidane. Non,
j'ai pas pensé.
J'ai eu du gars sur Zidane.
Victoire.
Je sais pas qui c'est.
De l'équipe de Yanis.
Moi je parlais du fils, hein, le gardien. Hein.
Bien sûr.
Lucas Zidane.
Alors, Fred ne connaît pas l'impression ce joueur. Hein. Fred
non, ça, franchement, je suis. Vous ne pourriez pas le truc à me recommander.
On a égalisé.
Non,
on a
gagné,
Captain.
5-4.
On a gagné.
Bah oui, papa, je suis là, but en or.
Merci tout le monde. Yannis, envoie-moi un t-shirt RMC. Vincent, tu as bien tenté. Julien part là-dessus après ce but en or.
J'ai un texto merci aussi de Monsieur Le Graët là.
Pour ah oui, très bien. On lui envoie tout de suite. Voilà pour ce blind test et voilà pour le meilleur de Team Duga. C'est tous les samedis et dimanches entre 18h et 20h les meilleurs moments de la semaine. Et si vous voulez du direct, c'est demain 18h. Christophe Dugarry et toute la Dream Team de retour. Dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC.
RMC 18h-20h, le meilleur de Team Duga.